Alors, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, ou chères auditrices, chers auditeurs plutôt. Donc, nous sommes au Quorum, et avec Dorota Andrzejewska.
Bonjour, oui, Dorota. Bonjour.
J'espère que je n'ai pas trop abîmé la
position. Non, non, c'est presque bon.
Voilà. Donc, inutile, enfin, c'est toujours utile, mais on va rappeler. Hein, vous êtes le violon super solo de l'orchestre de Montpellier. 20 ans de carrière à l'orchestre de Montpellier.
Oui, il se trouve que d'ici quelques jours, ça sera vraiment la date où pour la première fois je suis venue.
Vraiment les 20 ans, ouais, pile, vous pourrez souffler les bougies.
Oui, oui, voilà.
Alors, et puis, du coup, l'orchestre vous a proposé d'un concert spécialement consacré à vous. Ce n'est pas le premier, mais là, il y a vraiment les 20 ans qui vont jouer. Alors, un concert qui s'appelle Super Soliste en Lumière. Quelle différence, d'ailleurs, entre super soliste et soliste ?
Je vous avoue que le titre m'intimide un petit peu. Ce n'est qu'en France qu'il y a ce titre de super soliste. Communément, dans le monde, on dit Concertmeister pour ce poste-là.
Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, c'est vrai que ce mot super me gêne toujours un petit peu, je vous avoue. Voilà, c'est le titre qu'on donne à ce poste. Mais parfois aussi à d'autres postes dans l'orchestre. Mais voilà, donc il peut y avoir d'autres super solistes, mais au niveau Concertmeister, c'est une fonction vraiment à part.
Voilà. Oui, on peut peut-être le préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est presque assistant du chef d'orchestre ou c'est plutôt le travail de préparation de l'orchestre ?
Oui, c'est peut-être beaucoup dire assistant. C'est plus, je dirais, un rôle de pont entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Le chef d'orchestre s'adresse souvent au premier violon pour, quand il veut, par exemple, résoudre un problème technique, pour demander comment obtenir le résultat musical qu'il souhaiterait. Et là, le premier violon peut suggérer, par exemple, tel ou tel type de coup d'archet, c'est dans notre jargon, on dit. Mais ça, voilà, ou voilà, des solutions techniques, ou de jouer sur telle ou telle corde, ou en tout cas pour essayer de mettre en pratique, d'incarner l'inspiration du chef d'orchestre. Donc voilà, c'est un rôle qui peut être celui d'une transmission, en fait, entre le chef d'orchestre et le reste des musiciens cordes, notamment. Et puis voilà, après il y a tout un travail aussi avant les répétitions, justement, de ces fameux coups d'archet, toute une préparation des partitions qui, normalement, c'est le premier violon qui s'en occupe, et à moins que le chef vienne avec ses partitions à lui. Et puis après il y a tout un, je pense aussi quand même, un côté un peu symbolique quand vous voyez le premier violon qui arrive. En début de concert, c'est pas tellement le premier violon qui est applaudi, mais c'est, je crois qu'il symbolise un petit peu, il fait lever l'orchestre à ce moment-là, et c'est un peu un rituel symbolique pour faire saluer tout l'orchestre. Voilà, donc
oui,
il y a toute une symbolique.
Chef, voilà. Ça arrive à beaucoup de chefs de serrer la main du premier violon, éventuellement d'autres premiers chefs de pupitre, mais c'est. C'est une façon de saluer tout l'orchestre.
Oui, voilà, c'est ça.
Difficile d'aller serrer 80 ou 120 mains à ce moment-là.
Voilà, exceptionnellement aussi, dans des situations, bon, quand le répertoire le permet, quand le chef d'orchestre soit ne peut pas être là, on peut demander au premier violon de diriger une répétition. Ou parfois même, nous avions fait des concerts sans chef d'orchestre. À ce moment-là, c'est le premier violon qui dirige de sa chaise. Voilà. C'est comme ça auparavant, d'ailleurs, que encore du temps, justement, de Mozart, du début du romantisme, l'orchestre était dirigé fréquemment par le premier violon. Et puis sinon, encore d'autres choses qui incombent à ce rôle, c'est quand il y a bien sûr des solos, comme justement prochainement pour Scheherazade, des solos écrits dans une œuvre symphonique. Voilà, c'est pour violon, c'est le premier violon qui les joue.
D'accord. Alors là, vous ne serez pas Concertmeister, le soir du 23 mars, entre autres du 23 mars, à Montpellier, avec un concert avec au programme Édouard Grieg et la suite Holberg. Et puis, en deuxième partie, il y a le tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Et puis surtout, donc, vous serez soliste d'un des concertos pour violon de Mozart, le quatrième. Hein, alors, pour les spécialistes, c'est le Quechette 218, voilà, hein, en ré majeur, qui est une tonalité que les compositeurs aiment bien pour le violon, le ré majeur.
Oui, oui, absolument. C'est du fait de l'accord des cordes du violon, c'est une tonalité qui vraiment donne beaucoup de résonance à toutes les cordes. Donc c'est, voilà, c'est une belle tonalité pour le violon. Et c'est, je vous avoue, c'est la première fois à Montpellier que je vais jouer un concerto de Mozart. Mmh. D'ailleurs, ce concerto-là, en regardant un petit peu dans les archives de l'orchestre, la dernière fois qu'il a été joué, c'était il y a 34 ans. C'est étonnant, pourtant c'est un des concertos quand même très joué.
C'est un des concertos, oui, du répertoire.
Oui, oui. Mais comme quoi, en fait, voilà, nous, finalement, les violonistes ne jouent pas tant que ça, les concertos de Mozart, en tout cas les violonistes invités. Pour moi, c'est, voilà, je suis profondément, je dirais même émue de jouer Mozart, parce que je vous avoue que Mozart est vraiment, pour moi, le compositeur qui m'émerveille au plus haut point. Je crois que je n'en finirai pas jusqu'à la fin de mes jours d'être émerveillée par cette musique, par cet être qui s'est laissé vibrer dans tous les sens. C'est un peu comme ça que je le vois. Bon, si on est croyant, on peut dire entre les mains de Dieu, ou si autrement, en tout cas, il y a quelque chose d'étonnant dans ce génie qui si jeune peut parler de toutes les émotions de l'être humain. Là, ce concerto de Mozart, il l'a composé à 19 ans, et déjà il y a une maturité, il y a une beauté, même une complexité harmonique étonnante, et pour moi vraiment bouleversante. Donc je suis profondément émue. Peut-être justement, je suis toujours un petit peu intimidée aussi pour jouer Mozart, parce que c'est tellement grand, tellement beau, tellement, je sais pas, je veux pas dire parfait, parce que c'est pas, je n'aime pas d'ailleurs la perfection, et c'est pas ça le mot, c'est juste que c'est une merveille, et surtout de ne pas l'abîmer, voilà, être au service de cette musique. Et voilà, donc j'en suis très heureuse aussi de pouvoir partager, je l'espère, je pourrai transmettre tout l'amour que j'ai pour cette musique.
Alors, est-ce que vous, quand vous jouez une œuvre comme ça, très connue, je vous dis, il y a quelque chose, le public la connaît, donc on a un public peut-être plus vigilant, plus attentif, et puis aussi qui a dans la tête, c'est un public de mélomane, qui a toutes les grandes versions, qui a entendu, là il y aura certainement des gens qui ont leur version, avec Milstein, avec Stern, avec, avec X grands violonistes, X grands orchestres et chefs. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu paralysant comme interprète, ou une fois que vous y êtes, c'est bon, quoi, ça part tout seul?
Je pense que c'est bien sûr qu'on peut l'aborder de cette manière, que ça peut l'être paralysant quand on regarde la, comme vous venez de dire, cette multiplicité d'interprétation merveilleuse d'une musique qui est vraiment pas facile à jouer, même techniquement finalement, parce qu'il y a une telle demande de précision mais en même temps je crois qu'elle est toujours à nouveau par chaque interprète à redécouvrir. C'est ça le sens, je crois, même de ce que nous faisons, c'est parce que sinon il y aurait pas de sens à rejouer un concerto ou de Beethoven ou de Brahms qui ont été joués par les plus grands violonistes. Mais je pense, comme nous sommes chacun uniques, il y a quelque chose dans cette rencontre avec le compositeur qui peut se faire, et qui d'ailleurs n'est pas faite une fois pour toutes, parce que peut-être dans 5 ans, je rejouerai différemment ce concerto. Mais je pense que voilà, c'est pas juste une croyance, je le vis vraiment profondément, qu'il y a une vraie rencontre sur le moment avec le compositeur, surtout si on veut être au service de sa musique, parce qu'il y a aussi, voilà, on peut dire, aborder les choses de différentes manières, mais si par amour on veut être là pour juste faire pour partager l'émerveillement par lequel on est touché, je crois qu'il y a quelque chose d'unique qui peut se passer le jour J en concert.
Oui, et puis c'est la musique au vivant, voilà, pas un disque. Disent qu'on le remet 2 jours plus tard, c'est exactement pareil. On n'est pas forcément dans le même état, donc on n'entend pas forcément pareil. Mais là, bon, là, c'est une autre expérience.
Et puis, voilà, je voulais encore dire une chose. On peut aussi, je pense, justement, avec Mozart, on peut passer un peu à côté de la profondeur, dans le sens, c'est une musique aussi assez agréable, facile à écouter. Certains peuvent la mettre même en musique de fond. Enfin bon, je trouve ça assez... Mmh. Et personnellement, je trouve que c'est une musique d'une complexité, d'une richesse d'émotions, où, comme je l'ai dit, il parle de tout l'être humain, d'une manière comme bon, dans ses opéras, après il a excellé, où il peut aller dans toutes les émotions de l'être humain, des plus joyeuses aux plus tragiques. Et ça nous dépasse, parce que je crois que ça touche à quelque chose d'archaïque en chacun de nous, où nous pressentons qu'il y a ça. Moi, j'aimerais aller chercher ça, même dans ses œuvres de jeunesse de Mozart, bien sûr, après, avec Don Juan, avec La Flûte enchantée, il est allé encore plus loin, je trouve, ou même dans certains de ses concertos pour piano. Mais même dans ses œuvres où il avait 19 ans, déjà, on pressent quelque chose d'un drame de la vie qui se joue. Et j'aimerais aussi pouvoir peut-être partager ça, de ne pas passer à côté de cette profondeur qu'il y a dans cette musique.